France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité de la création musicale aujourd'hui.
Avec des disques où on croisera une clarinette ou un hautbois et puis une grande passion de Penderecki.
Mais avant, on commence avec le piano. Serait-ce le compositeur le plus joué, le plus enregistré, le plus commandé ? Thomas Hadès est une star de la composition. On va commencer cette émission avec deux disques. Nous avons chacun notre disque de piano de l'œuvre de Thomas Hadès. Ici, une mazurka par Kirill Gernstein. Alors, en fin de saison, on avait reçu le concerto pour piano de Thomas Hadès, toujours joué par Kirill Gernstein. Et le pianiste, ici, récidive et poursuit sa passion avec l'œuvre de Thomas Hadès. Alors, il faut dire déjà que Thomas Hadès est un excellent pianiste. Donc, on peut se douter qu'il écrit très bien pour cet instrument. Et d'ailleurs, Kirill Gernstein dit qu'il a rencontré l'œuvre de Hadès en l'écoutant lui-même jouer au piano. C'était un des tout premiers disques du compositeur pianiste. Et ils se sont rencontrés en 2012. Et depuis, Gernstein est devenu un peu le pianiste officiel de l'œuvre de Thomas Hadès. Il lui a dédié une berceuse, il lui a dédié les paraphrases pour deux pianos. On trouve également sur ce disque une œuvre concertante, In Seven Days. Le pianiste nous dit, en 2012, quand j'ai commencé à jouer In Seven Days, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai regardé la page hébété, sans comprendre ce que je devais faire avec ces tempi soi-disant irrationnel, et qu'après 30 minutes, j'ai simplement fermé la partition pour aller prendre un café.
Ah.
Il y est revenu,
apparemment.
Heureusement pour nous, et on a ce disque aujourd'hui avec le Tanglewood Music Center Orchestra, sous la direction, donc cette fois-ci, parce que Thomas Hadès est également chef d'orchestre. On va écouter un extrait, donc c'est une sorte de presque de concerto pour piano avec Kirill Gernstein.
Thank you.
In 7 Days, c'est la musique de Thomas Hades, ici interprétée par Kirill Gernstein. C'est presque un piano symphonique dans cette œuvre, ou en tout cas, le piano n'est pas uniquement concertant. C'est le Tanglewood Music Center Orchestra sous la direction de Thomas Hades. Thomas Hades, pianiste et compositeur, avec une vaste actualité, puisque vous aussi, Milly, vous avez votre disque Thomas Hades au piano.
C'est assez rare quand ça arrive, ça montre aussi que c'est un compositeur important de notre époque. Et alors moi, c'est Han Chen, musicien taïwanais, qui enregistre cette musique. Il a 10 ans de différence avec Kirill Gernstein, il est plus jeune. Et on va retrouver des œuvres similaires, par exemple la Mazurka que vous avez passée en ouverture de cette émission, est également au programme du disque de Han Chen, qui lui enregistre toute l'œuvre pour piano de Thomas Hades, et on a un premier enregistrement mondial, les Blanca Variations.
Thank you.
les Blanca Variations de Thomas Hades par Anne Chen, un disque entier consacré au compositeur. On nous dit que c'est une intégrale pour l'instant. Il y aura certainement d'autres œuvres à venir. En tout cas, c'est un beau disque et c'est pas évident pour les interprètes ce piano, puisque le piano de Thomas Hades, il met vraiment les interprètes à rude épreuve. Il est brillant, virtuose. Il est aussi plein de citations, de références et il faut en saisir toutes les subtilités. Et je trouve que Anne Chen les a justement toutes saisies. Et on sent qu'il aime cette œuvre, qu'il y met tout son cœur. Et on va écouter et le remarquer à nouveau dans une paraphrase de concert, paraphrase sur Powder Her Face, une œuvre à l'allure listienne. Thomas Hades a choisi 4 scènes de son premier opéra, Powder Her Face. Il les a transformées en morceaux pianistiques. Les opéras de Thomas Hades, en plus, on les aime tout particulièrement.
Oui. Et vous savez que donc pour le disque de Kirill Bernstein, qu'on a écouté il y a quelques minutes, il y a le premier enregistrement mondial d'une version pour deux pianos de cette œuvre, où il joue
décomposé
avec,
après, donc,
voilà, donc il en a fait plusieurs versions.
Voilà ce que nous dit le compositeur. L'opéra dresse le portrait d'une duchesse d'un certain âge à la fin du XXe siècle. Ça correspond à la fin de l'influence aristocratique britannique. Dans l'opéra, la grâce et le glamour de la duchesse sont représentés en musique par une certaine virtuosité qui m'a encouragée à écrire une paraphrase pour piano qui évoquerait Liszt ou Busoni. On va écouter le premier mouvement.
Thank you.
La paraphrase de concert sur Powder Her Face, c'est ainsi qu'elle s'ouvre, cette paraphrase. C'est Han Chen qui enregistre cette musique pour le label Naxos. Très bel enregistrement, ça nous a tellement plu que c'est notre disque du jour.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier. France Musique.
Un beau disque du compositeur Esteban Bensekri, compositeur franco-argentin qui aime particulièrement l'orchestre et qui d'ailleurs écrit très bien pour cette machine. Vous allez l'entendre, ce disque, un disque important sans doute dans la carrière de ce musicien. On y trouve plusieurs concertos, un concerto pour violon, mais aussi un concerto pour clarinette. Rompant les amarres du romantisme et de l'expression exacerbée du moi, Bensekri nous convie dans des mondes enchantés, parfois angoissants, que nous découvrons au gré des élans mélodiques, des jets de couleurs. C'est Benoît Duterte qui écrit, figurez-vous, la notice de ce disque. Il dit qu'il a rencontré le compositeur qui était venu le voir pour avoir une commande à Musique Nouvelle en Liberté. Et il écrit un très beau texte nous disant en fait que c'est surtout une musique qui nous invite à voyager. Et le concerto pour clarinette le prouve puisque le dernier mouvement s'appelle Toccata des Caraïbes. Exprimer la joie et l'atmosphère festive et sensuelle des rythmes caraïbéens à travers des évocations stylistiques de ce folklore, mais sans citation textuelle. Ce mouvement est d'une grande complexité rythmique et virtuose, tant pour le soliste que pour l'orchestre. Nous allons l'écouter, donc ce final du concerto pour clarinette d'Esteban Bensekri, le Livre National Philharmonic Symphony Orchestra, et à la clarinette, c'est Pablo Boggiano.
Thank you.
Le concerto pour clarinette d'Esteban Bensekri, c'était ici le final avec l'Orchestre Symphonique Philharmonique National de Lviv, Pablo Boggiano à la clarinette et Mariano Rey à la direction.
Encore un vent de la clarinette, on va passer au hautbois.
Et un autre compositeur qui cherche plein d'influences différentes.
Oui, et vous avez entendu ce disque dans notre trompiste quotidien. C'est le disque du hautboïste François Leleu. Il s'appelle Bienvenue en France. Il ouvre les bras comme la pochette.
Très
c'est
accueillant.
En duo voilà, avec le pianiste Emmanuel Strausser qui regroupe des œuvres de Saint-Saëns, Pierre-Né du Tillet ou Sancan. Et donc une œuvre d'un compositeur de notre temps qui est Thierry Pécou. Une œuvre de jeunesse puisqu'elle a été écrite par un compositeur de 19 ans. Et grâce à elle, il a remporté en 85 le premier prix du concours international du Stroud Festival en Grande-Bretagne. Et Thierry Pécou la regarde aujourd'hui comme un objet extérieur et lointain. Pas facile hein, de regarder
non,
son œuvre pour un compositeur.
Souvent, Dutilleux, souvent pour les premiers, comme ça.
Souvent pour les premiers opus. Mais il la considère comme la deuxième pièce de son catalogue, donc il ne l'a pas renié. On va écouter le troisième mouvement de cette sonate pour hautbois et piano, avec un piano très percussif, un hautbois au discours parfois complètement disloqué, qui s'exprime très souvent dans le suraigu. C'est un déchaînement avant une coda apaisée, qui sera donc le calme après la tempête. François Leleu au hautbois et Emmanuel Strausser au piano.
Thank you.
La sonate pour hautbois et piano de Thierry Pécou, François Leleu et Emmanuel Strausser pour ce disque qui s'appelle Le Bienvenue en France. Alors pas seulement des compositeurs de notre temps, mais il y a donc Thierry Pécou au générique.
En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Tarantino, un nom qui sonne un peu comme du cinéma par exemple, mais aussi au violoncelle, Luciano Tarantino, violoncelliste italien qui nous offre ici un très beau projet, Une journée seule avec le violoncelle, un répertoire punk pour violoncelle seul qui laisse la part belle à la musique de notre temps, Giovanni Solima, Carter Bray, Ilse Dizia ou Sébastien Diezich que nous allons entendre dans un instant. Alors musique pour le matin ou pour la nuit, c'est passer une journée avec le violoncelle, c'est le but de ce disque, et comme nous sommes le soir, c'est le blues que j'ai choisi, le blues de Sébastien Diezich, qui nous emmène vers un blues jusqu'au bout de la nuit, un peu mélancolique. C'est un compositeur né en 1983. Il est violoncelle solo de Lucerne, et c'est aussi l'intérêt de ce disque, ce sont souvent des interprètes qui sont également compositeurs. On y découvre la musique de Paul Tortelier, grand violoncelliste, mais également compositeur, la musique de Rostropovitch, grand violoncelliste, mais également compositeur, et c'est donc la même chose pour Sébastien Diezich. Vous êtes sûr que c'est un blues?
Ah là, ça y ressemble. Hein.
Oh yeah! C'était Sébastien Diezich, le compositeur qui donc nous propose ce blues interprété par Luciano Tarantino. Et vous l'avez relevé, vous avez bien fait de le relever, Émilie, hors antenne, et je le dis. Très belle prise de son.
Ah oui, on est dans le violoncelle.
Pas évident, hein, violoncelle seul, parfois ça peut être un peu ennuyeux, et quand c'est mal enregistré, je veux dire. Et là, comme c'est bien enregistré, ça passe tout seul.
Alors ça va pas du tout être la même ambiance, le disque qu'on va entendre tout de suite. C'est pas du tout ambiance blues en fin de nuit. C'est
ça une... peut donner le blues.
Non, pas du tout, je vois pas pourquoi.
Bah, c'est pas une œuvre très joyeuse.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une passion, elle est signée Penderecki.
Thank you. atuc eloquente ex turba et quivocabatur. Unus de duodecim antes debat eos. Viva! Osculo filium homini stradis! Quasi alla trone existis cum panes et fustibus se hec est ora vestra et potestas te
Voilà une œuvre exigeante que l'on doit au compositeur polonais disparu en mars dernier, Krzysztof Penderecki. Œuvre exigeante et complexe qui demande une baguette experte. Et ça tombe bien, puisque c'est Kent Nagano qui la dirige. Le chef connaissait le compositeur, d'ailleurs, qui a assisté à la représentation et donc à l'enregistrement de cette passion qui a été donnée à Salzbourg en 2018. C'est une œuvre qui date de 1966, commande de la radiodiffusion de l'Allemagne de l'Ouest de Cologne. Elle sera extrêmement bien accueillie par la critique. Alors Penderecki était déjà connu, mais en tout cas à 32 ans, ça va vraiment le propulser définitivement sur le devant de la scène contemporaine, assez typique de ce qu'il faisait à l'époque, radical, structure sérieuse, qui cherche des nouveaux chemins musicaux. Et le compositeur explique qu'il se réfère aux passions de Bach, sans lesquelles, donc selon ses mots, il n'aurait jamais pu écrire sa passion selon Saint-Luc. Trois solistes, un narrateur, des chœurs mixtes, un chœur de garçon, un grand orchestre. C'est une pièce monumentale, puissante et pleine d'éclat. Impressionnante aussi dans sa force musicale, bien sûr, mais aussi dans sa puissance expressive. En voici donc un nouvel extrait.
Tutitis.
La Passion selon Saint-Luc de Penderecki avec l'Orchestre de Montréal, le Chœur des Garçons de Varsovie, le Chœur Philharmonique de Cracovie et c'est Kent Nagano qui dirige. Ça a été enregistré lors du Festival de Salzbourg en juillet 2018 en présence du compositeur. Kent Nagano qui disait à Res Musica que Penderecki était un ami personnel. Il le connaissait depuis 1972. Il avait une relation forte avec l'Orchestre de Montréal, tant comme compositeur que comme chef d'orchestre. Et donc cette Passion selon Saint-Luc avait été très importante pour lui à travailler avec le compositeur.
Et c'est l'heure du journal de la création sur France Musique. Bonsoir Laurent Vialarem.
Bonsoir.
Quelle direction aujourd'hui ?
Ce soir, on va voyager. On ira à Besançon, Paris, Strasbourg, Bordeaux et même Munich. Il y aura des arbres qui chantent, des dilemmes terribles, et pas une, mais 7 morts de Maria Callas. Émilie Rodolphe, savez-vous quel prix a remporté la musique que nous entendons ?
C'est son auteur qui a remporté quelque chose ?
Oui, on dirait bien,
oui. Mm-hmm. Ouais. Auteur avec un E ?
Une autrice alors. Oui, c'est Camille Pépin qui a remporté la victoire de la compositrice de l'année aux victoires de la musique classique 2020 avec son concerto pour clarinette et violoncelle Sound of Trees que nous devions entendre au Festival de Besançon car Camille Pépin y est compositrice en résidence. Malheureusement, une partie des concerts symphoniques a été annulée à Besançon, à cause de vous savez qui. Mais il reste beaucoup de concerts de musique de chambre, dont deux avec des œuvres de Camille Pépin, les 19 et 20 septembre, par le trio Métral et la pianiste Célia Oneto-Bensaïd. Camille Pépin, c'est la grande vedette de la semaine, car la compositrice amiénoise crée aussi ce vendredi et samedi une œuvre à la Maison de la Radio par les musiciens du Philharmonique de Radio France. La pièce a été écrite durant le confinement et s'appelle « Avant les clartés de l'aurore ». On attend chaque pièce de Pépin avec impatience, et moi je trouve qu'avec son orchestration à la française, ses grands espaces et ses rythmes pop, elle apporte un vrai coup de frais à la musique française contemporaine, alors qu'elle n'a pas encore 30 ans. Donc il y aura du Pépin pour tout le monde, du 18 au 20 septembre, à Paris et à Besançon, et la pièce créée à Radio France sera reprise à Bordeaux par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine le 25 septembre.
On passe au festival, Laurent.
Oui, ce jeudi 17 septembre et jusqu'au 3 octobre commence le Festival Musical de Strasbourg, qui est l'un des grands festivals de musique contemporaine. On laisse la parole à son directeur Stéphane Roth, qui présente cette année sa deuxième édition à la tête de Musica. Bonsoir Stéphane Roth.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner trois bonnes raisons pour aller au Festival Musica de Strasbourg ?
Alors, oui, bien sûr, la première raison, c'est, je pense, la question des formats. Évidemment, on est dans une période compliquée, hein, émouvante, et on a choisi de maintenir cette édition presque dans son intégralité, en adaptant tous les formats de concerts. Alors, il y a aussi bien des concerts qui se déroulent dans des lieux gigantesques, mais aussi des concerts sous casque, par exemple, en déambulation dans la ville.
Une deuxième raison ?
Deuxième raison, je pense que c'est le franchissement des frontières esthétiques, des gens qu'on voit rarement, aussi bien des artistes étrangers comme le Danois Simon Sten Andersen, que le pape des musiques électroniques, Ryoji Ikeda, et tout ça, bien sûr, corrélé à l'histoire de la musique du XXe siècle, Stimmung de Karlheinz Stockhausen. Et la troisième raison, c'est bien sûr la jeunesse, si bien que nous avons décidé cette année de lancer une initiative qui se poursuivra dans le futur, à savoir un festival à l'intérieur du festival qui s'appelle Mini Musica, et qui est destiné à la jeunesse et aux familles, et en particulier aux enfants de 0 à 12 ans.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci à vous.
Le festival Musica de Strasbourg commence ce jeudi et se tient jusqu'au 3 octobre.
Et dans un instant d'ailleurs, dans le carrefour de la création, Thomas Vergracht nous proposera une spéciale festival Musica.
Émilie Rodolphe, je suis un peu comme Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, j'ai un problème.
Ah. Mais là, on peut vous aider, je suis sûre.
Oui, parce qu'il y a deux beaux concerts ce mercredi 16 et je ne sais pas lequel choisir.
Alors dites-nous.
À l'église Saint-Eustache, il y a une soirée Wolfgang Grimm mêlée à du Gesualdo par l'Instant Donné et le SVR Ensemble. Mm-hmm. Et à la Philharmonie, il y a un grand concert de l'ensemble intercontemporain avec une création de Matthias Pinscher et une création mondiale de Toshio Ozawa intitulée The Flood.
Ah, moi je vais entendre Toshio Ozawa.
Ouais, en plus, moi aussi, c'est ça le problème.
Le grand déluge en plus.
Donc on vous donne Grimm.
Ah, bah alors vous m'avez convaincu pour la soirée l'ensemble intercontemporain. Car il y a en plus du Neuwirth, Romy Telly et une pièce du compositeur et batteur jazz Tishon Soré. Les deux concerts ont lieu ce mercredi 16 septembre à Paris, l'un à Saint-Eustache et l'autre à la Philharmonie de Paris.
La rubrique « Pourquoi composez-vous ? »
Oui, on est très heureux d'avoir ce soir l'un des très grands noms français de la musique d'aujourd'hui, le stupéfiant compositeur Franck Bedrossian, né en 1971. Bonsoir Franck Bedrossian.
Bonsoir Laurent.
J'ai une question à la fois simple et compliquée pour vous. Pourquoi composez-vous ?
Alors je compose parce que j'aime les sons et que c'est avec les sons, plus qu'avec les mots je crois, plus qu'avec les images, que je me sens le plus libre. Libre d'imaginer, de partager des émotions, d'inventer une forme aussi, et en fin de compte libre d'être moi-même dans ce monde. Et parce qu'à la fin, c'est un très grand plaisir de se mettre chaque jour à la table pour composer, sachant que même si à chaque fois c'est de manière différente, je sais que j'éprouverai ce sentiment de liberté.
Merci beaucoup,
merci
Franck.
Merci à vous.
On termine, Laurent, avec de l'opéra.
Oui, tout d'abord, car on a appris cette semaine avec stupéfaction la disparition du chef belge Patrick Davin lors des répétitions de « This is the end » de Jean-Luc Favchamp à la Monnaie de Bruxelles. C'était un immense interprète du répertoire contemporain, et notamment le créateur des opéras de Philippe Bosmans. Il sera très charmant regretté en Belgique, en France et dans le monde entier. Et nous parlons également opéra, avec la création de Seven Deaths of Maria Callas, qui devait être créée au Palais Garnier le 2 septembre, et qui a été annulée à cause de qui ? Je vous pose la question.
Toujours la même.
C'est même une madame, il faut dire la Covid. Mais qui vient d'être donnée à Munich le 7 septembre. C'est l'artiste plasticienne Marina Abramovic, la diva de l'art contemporain avec son visage si étrange.
Ça va être gore.
Pas du tout. Ah. Qui entrelace sept airs mythiques de Maria Callas, La Tosca, Madame Butterfly et Lucia di Lammermoor, Traviata, etc. Avec la musique du remarquable compositeur d'origine serbe, Marko Nikodijevic. Le spectacle est disponible en streaming gratuit durant un mois sur le site de l'Opéra de Bavière. Et c'est un spectacle à voir aussi pour la musique de Marko Nikodijevic, compositeur très lyrique, très puissant avec une force rituelle très forte. On se quitte avec une de ses pièces qui s'appelle K-Hall Schwarzer Horizon. Par l'ensemble intercontemporain, on dirait un petit jardin d'Éden.
Thank you.
extrait de K. Hall, Schwarzer Horizon, de Marko Nikodijevic.
Merci Laurent, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous aimez les petits Larsen ?
Ah, moi j'adore ça.
Petit ou bien fort, bien dans les
bien
oreilles,
fort, bien puissant,
bien envoyé.
Comme on les aime.
Il y en aura peut-être au Festival Musica, en tout cas ce sont les à propos d'Antoine Berland.
Les à propos.
Antoine Berland.
90 secondes de son lit.
Je crois que c'est bon là. Oui.
Les à propos.
C'est bon pour tout le monde.
Antoine Berland.
Oui.
Les à propos d'Antoine Berland. Merci à notre équipe. Cette émission réalisée par Claire Lagarde avec Éric Carrère, Bernard Laniel et Taïsia Froidure.
À réécouter sur francemusique.fr.